Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler du prophète Jonas, un prophète bien particulier dans un livre très surprenant. Alors, le prophète Jonas, c'est peut-être le seul petit prophète qu'on étudie au culte de l'enfance. On passe du temps sur le prophète Jonas, mais je vais vous dire, c'est tout sauf un livre pour enfants. Alors, que de contrastes dans ce court livre prophétique et combien de paradoxes. Un prophète de Dieu qui refuse de croire et d'obéir. Des païens ennemis héréditaires du peuple de Dieu qui croient. Un grand poisson qui avale ce prophète désobéissant et le vomit sur une plage. Ce même prophète qui prie dans le ventre de cet animal marin et s'émerveille de la grâce de Dieu à son égard. Une grande ville violente, conquérante, qui se convertit en un jour suite à l'annonce d'un futur jugement radical. Une grande plante qui pousse en une nuit et périt rongée par un ver en quelques heures. Un prophète qui se fâche et désire mourir plutôt que de voir la grâce de Dieu en action. Un livre dont la chute nous laisse avec des questions et un drôle de sentiment. Tout dans le livre du prophète Jonas est là pour bousculer nos schémas de pensée et nous amener à une compréhension qui va au-delà de ce récit et des faits qui y sont rapportés. André Chouraqui écrit dans son introduction au livre de Jonas: Nous avons dans ce petit volume un exemple parfait des méthodes d'écriture employées par les Hébreux. Le style semble être celui d'un scénario de film. Chaque mot indique une action, illustre un geste. Rien d'inutile dans ce texte écrit pour édifier, avec une maîtrise, une évidence, une objectivité difficilement imitable. Cette histoire très fantastique possède un personnage central historique. Le prophète Jonas a bien existé. Et nous en trouvons mention dans le second livre des Rois, au chapitre 14 et au verset 25. Je vous lis. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le premier verset du livre nous confirme que ce Jonas est bien le même, car descendant du même homme, Amittaï. Ils viennent de Gath-Hépher, qui se trouve en Galilée, entre la pointe sud du lac de Galilée et la mer. Pour situer le contexte historique et géographique, ce qui est important pour la compréhension du texte et des enseignements qu'il doit nous apporter, il faut donc se souvenir que le pays est divisé en deux royaumes distincts. Au nord, le royaume d'Israël, composé des 10 tribus avec à sa tête Jéroboam II, dont la capitale est Samarie, et au sud le royaume de Juda, incluant la tribu de Benjamin, qui a pour capitale Jérusalem et se trouve gouverné par le roi Ozias. Notre prophète Jonas est donc prophète d'Israël. Une majorité de spécialistes s'accordent sur une date autour de 763 avant Jésus-Christ pour l'intervention de Jonas à Ninive. Quelle est cette ville? C'est une des grandes villes de l'Empire assyrien, grande puissance conquérante de l'époque, comme pour la cruauté de ses invasions dans les pays environnants. Connue, pardon, pour la cruauté de ses invasions dans les pays environnants. Ninive deviendra la capitale de l'Empire assyrien vers l'an 700 sous le règne de Sennachérib. Elle était située, pour ceux qui ont la carte du Moyen-Orient en tête, dans le nord de l'Irak, auprès du fleuve Tigre, dans la province du Kurdistan. Une ville dont on a beaucoup parlé récemment est construite sur l'emplacement de Ninive, c'est Mossoul, qui fut capitale de l'État islamique. Les invasions de la Syrie seront nombreuses en Israël et mettront un terme au royaume d'Israël en 722 avant Jésus-Christ par la prise de Samarie par Shalmaneser et la déportation d'une partie du peuple. Au moment où se situe le récit, la Syrie traverse une période difficile et sa puissance est à un point critique sous le règne d'Assurdan III, des revers militaires, des famines et des insurrections en sont la cause. C'est vers cette ville qu'est donc envoyé le prophète Jonas. Au chapitre 1, au verset 1, nous lisons « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Surprenante réaction ou légitime réaction, motivée par la crainte des Assyriens ennemis d'Israël. Tout d'abord, un lecteur peu averti pourrait méconnaître qui est Jonas et ne pas savoir qu'il s'agit d'un prophète reconnu en Israël comme serviteur de l'Éternel, selon ce que nous avons appris dans le livre des Rois. Dieu, quand il veut communiquer, utilise le prophète pour révéler sa parole. Donc, c'est un homme connaissant celui qu'il est censé représenter, sa toute-puissance, sa toute-connaissance, qui choisit de prendre la direction opposée et de fuir la mission confiée. Le voyage vers Ninive fait environ 800 km, celui vers Tarsis plutôt 2000 km à travers la Méditerranée. Comment Jonas a-t-il pu ainsi désobéir sans penser que Dieu le laisserait déserter sa mission sans intervenir? Jonas a-t-il pu ainsi désobéir à ce point-là? Est-ce la peur de ses cruels ennemis? En tous les cas, c'est bien Jonas inconscient et rebelle qui descend au port de Jaffo, qui est appelé Joppé à l'époque de Jésus et qui est entouré de nos jours par la ville de Tel Aviv. Il paye son voyage sur un navire qui part à l'opposé de Ninive et surtout fort loin, car on situe la ville de Tarsis antique sur la côte sud de l'Espagne, peut-être vers Malaga. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que Jonas connaissait vraiment l'Éternel? La réponse est complexe, comme nous le sommes souvent. C'est la fuite pour échapper à notre mission et à notre responsabilité. Il faut peut-être y voir aussi la peur face à un ennemi redoutable et cruel, et de plus aller lui apporter la nouvelle de la condamnation divine, littéralement « cri contre elle » selon la version seconde. Non, Jonas n'a pas envie d'obéir et organise sa fuite à l'opposé de sa mission. Pourtant, il aurait pu être fier d'être le messager de la justice divine face à l'abondance du mal dont étaient coupables les Ninivites. C'est donc un déserteur qui s'embarque sur un bateau pour Tarsis, mais pas un clandestin. Jonas paye sa place et enlève l'ancre, direction vers l'ouest. Les prévisions météo de l'époque n'étaient sûrement pas assurées par les supercalculateurs utilisés de nos jours, mais de toute façon, rien ni personne ne pouvait prévoir le grand vent que le Tout-Puissant, le Maître de l'Univers, allait lancer sur la route de ce navire. Là, nous lisons au verset 4, chapitre 1er, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Afin de le rendre plus léger, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Les professionnels de la mer ont peur et commencent à prendre des dispositions extrêmes. Jeter par-dessus bord la marchandise transportée. Mais Jonas dort du sommeil du juste. Aucune crainte, aucun remords ne vient troubler sa conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà essuyé une tempête à bord d'un navire. Moi non. J'ai déjà le mal de mer par petites houles, mais de là à dormir profondément. Mais Jonas est plus marin que ceux qui partent pour le tour du monde à la voile en solitaire ou que l'équipage du remorqueur de haute mer Abeille Bourbon. Il faut qu'on vienne le réveiller pour lui demander de prier son Dieu à lui, car les prières des marins vers leur Dieu n'ont pas eu de résultat. C'est le monde à l'envers, le capitaine, un étranger, qui vient demander au prophète de l'Éternel de prier. La demande est hypothétique. Peut-être qu'il pensera à nous, ton Dieu. Réaction compréhensible de la part de païens polythéistes. Mais paradoxe, là aussi, les païens prient et le prophète dort. Le plus surprenant dans ce récit est que Jonas ne réagit pas. Il aurait pu comprendre que cette tempête ne s'était pas abattue au hasard sur ce bateau. Il faut que ce soit l'équipage qui se pose la question de l'origine du malheur, qui va les envoyer par le fond, comme nous le trouvons dans le texte. Alors, pour déterminer qui est responsable de ce déchaînement des éléments et de la perte probable du navire et des vies de tous, ils choisissent de tirer au sort. Pas de hasard dans leur question. Dieu va se charger de désigner le responsable. Et il faudra bien à Jonas s'expliquer sur son origine, son activité professionnelle et sa raison de sa présence à bord. Il précise dans sa réponse qu'il craint l'Éternel, le Dieu des cieux et de la mer. Ces marins d'origine païenne vont mettre Jonas face à la contradiction de sa réponse. Tu nous dis craindre le Dieu des cieux et de la mer, et tu nous as indiqué que tu fuyais loin de sa face. Pourquoi as-tu fait cela ? On touche là un point qu'il faut mettre en évidence, le contre-témoignage avéré. Le croyant devient la cause d'une catastrophe pour les non-croyants par sa désobéissance. La question est que faire pour changer la situation ? Des hommes vont périr par la faute de Jonas. Alors le prophète accepte la sentence et leur donne la solution. Jetez-moi par-dessus bord, car je sais que c'est moi le responsable de votre malheur. Il aurait pu choisir de reprendre la mission en se faisant débarquer dès que possible, mais il préfère passer à la mer. Verset 13. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Le monde à l'envers encore, les païens qui invoquaient leur Dieu maintenant invoquent l'Éternel et vont même saisis d'une grande crainte, nous le verrons, vous pourrez le lire un peu plus loin, offrir un sacrifice à ce Dieu qu'ils découvrent comme le Tout-Puissant et faire des vœux. Mais l'Éternel n'a pas renoncé à envoyer ce rebelle de prophète pour suivre sa mission, mais ce sera au prix d'une expérience extraordinaire au sens littéral. Nous connaissons tous la manière que Dieu utilisera pour sauver Jonas de la noyade. Qui au culte de l'enfance n'a pas entendu ce récit ? Le sauvetage de Jonas par ce grand poisson sera l'expérience qui le ramène vers celui qu'il était censé servir. Lisons les paroles de Jonas. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Alors Jonas a le temps de méditer et de revenir de sa mauvaise direction pendant les 3 jours et les 3 nuits dans le ventre de cet animal. Depuis le début du récit, Jonas était en descente vers Jaffo, puis dans la cale du navire. De là, il se laisse sombrer dans le sommeil. Il descend dans les abîmes, puis dans le ventre du monstre. Il faut qu'il soit au plus bas de cette descente, qu'il touche le fond, selon l'expression populaire, pour que Jonas enfin reprenne pied, renoue avec son Dieu et même puisse faire monter ce cantique de louange et d'action de grâce. C'est bien une remontée qu'il entame par ces si belles paroles. Il faut qu'il se retrouve au fond de l'abîme dans une situation désespérée pour espérer et mettre sa confiance dans ce Dieu qu'il a fui. Il peut dire « Tu m'as fait remonter vivant », ce qui signifie qu'il met au passé une issue favorable future. Déroutant Jonas, mais sans aller nous mettre dans une situation aussi extrême, est-ce que parfois je ne fuis pas mon témoignage? Jésus-Christ parlera et authentifiera donc ce récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 39. Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. » Dieu n'a pas changé ses plans malgré la désobéissance de son prophète. Le message doit être apporté à Ninive, donc Jonas se trouve débarqué fort peu élégamment sur une plage, il est vomi. Dieu parle une fois, l'on n'y prend pas garde, puis la deuxième fois, le même message est renouvelé. Le prophète se met en marche dans la bonne direction. Il va donc accomplir le long voyage vers cette ville ennemie avec pour mission de délivrer un message peu amical. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Observez le temps utilisé dans la traduction. On aurait dit « nous sera détruite », vu que c'est un futur. Mais en fait, c'est un présent qui est utilisé dans la traduction seconde. Cela implique, selon ce que je comprends, que cette destruction est actée, qu'elle n'est pas conditionnelle. Comment aurions-nous réagi si une telle nouvelle nous parvenait? Je ne sais pas si Jonas argumentait cette nouvelle, le texte ne le dit pas, elle est brute et sans explication. Alors que vont faire les habitants de Ninive? Si nous ne connaissions pas la suite, il y aurait fort à penser que cet homme va passer soit pour un illuminé, bon pour l'asile, soit pour un affabulateur poursuivant une entreprise de démoralisation de la population ennemie, le porteur de la fake news du siècle. Mais l'impact de cette annonce dépasse ce que tous les prophètes ont obtenu comme repentance, même parmi le peuple de Dieu, celui de l'Alliance, choisi et chéri par Dieu. Le verset 5 du chapitre 3 nous rapporte la conversion littérale de ce peuple qui adorait un grand nombre de divinités, dont la déesse Ishtar. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le résultat est surprenant. Le roi lui-même ordonne la repentance générale, incluant même les animaux domestiques. Il ordonne à tous de crier à ce Dieu dans un jeûne total sous le sac et la cendre. Ils doivent tous se repentir de leur mauvaise voie et des actes de violence dont ils se sont rendus coupables. au vu de la cruauté reconnue de cette ville, le bilan va être chargé. Mais leur repentance est sincère, car l'Éternel la juge ainsi. Il ne détruira pas Ninive, et l'expression employée est qu'il se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Mais que va faire le prophète de cette bonne nouvelle? Peu d'hommes envoyés par Dieu vers un peuple païen et ennemi ont converti une ville où, d'après le texte, réside une population comprenant 120 000 personnes, peut-être, on ne sait pas, les enfants, ou ceux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, en tout état, ou du moins ceux qui sont, on va dire, un peu innocents, ou peu éclairés. Il est le messager du plus grand réveil de l'histoire, comme nous le dit Scofield dans ses commentaires. Est-ce que les Ninivites connaissaient la fin de Sodome et Gomorre? Je ne sais pas, car le texte ne précise pas, mais leur décision fut rapide. Jonas est fort irrité de la repentance des Ninivites et de la non-destruction de la ville. Il accuse Dieu de sa grâce. Il le savait bien qu'il est celui qui est miséricordieux et compatissant. Cela saborde sa prophétie. Il annonce des jugements qui n'arrivent pas. Qui va le prendre au sérieux maintenant que la nouvelle va se répandre? Il préfère mourir plutôt que de se réjouir du salut de tant d'humains et d'animaux. Jonas n'est pas content, c'est aussi peut-être son nationalisme qui ressort. Lui, le prophète d'Israël, qui sauve des ennemis du jugement divin par sa parole. La grâce de Dieu prive Jonas du feu d'artifice qui va réduire Ninive en cendres, lui qui s'était installé sur les hauteurs dans une cabane, attendant quoi? Peut-être a-t-il espoir que tout compte fait, au bout du temps donné, il assiste à la réalisation de son message. Pour comprendre un peu et surtout ne pas excuser l'amertume de Jonas face à la grâce divine accordée à Ninive, voyons ce que dit le prophète Nahum sur la destruction de Ninive au chapitre 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini, on tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi et l'on dira « Ninive est détruite, qui la plaindra ?» Où te chercherai-je des consolateurs ?» On voit que Ninive, pour Israël, était une ville ennemie, cruelle, et dont Dieu, d'ailleurs, permettra bien plus tard, la destruction. Le soleil tape dur dans cette contrée. Mon gendre, qui a réalisé 2 missions de 7 mois dans cette région pour la mer américaine, nous en a souvent témoigné. Dieu fait pousser une grande plante pour abriter Jonas et lui donner un peu d'ombre. Alors Jonas est rempli de joie pour ce ricin, ou kikajon dans la version d'Arby. Le salut de centaines de milliers d'humains est sûrement moins important que l'ombre procurée par cette plante. Mais la joie est de courte durée, car Dieu envoie un ver ronger la plante et sèche, et aussi un vent bien chaud venu d'Orient. C'est l'épreuve de trop. Jonas va très mal, il défaille et redemande la mort, une véritable obsession chez lui. Dès qu'une chose ne va pas comme il le souhaite, il veut mourir. Un paradoxe de plus pour cet envoyé divin. Dieu pose la question. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit, moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » La fin du livre nous laisse sur notre faim. Nous aurions, faim, F-A-I-M, nous aurions aimé savoir comment Jonas va rebondir et rentrer dans la relation avec Dieu. S'il rentre dans son pays, enfin réconcilié, réhabilité dans son ministère, il ne nous est rien dit. Peut-être, pour que chacun puisse écrire cette fin et tirer les enseignements de ce livre si paradoxal, de ce prophète si étrange. Pour moi, voici quelques conclusions que j'en tirerai. Combien de fois, sans bien sûr prendre la fuite physiquement, je fuis l'œuvre qui m'est donnée à faire pour éviter de me trouver mise en difficulté, car j'envisage tout d'abord tous les obstacles et les bonnes raisons de me dérober à la mission, au service que Dieu me confie ou place sur mon chemin. Ce n'est sûrement pas d'aller annoncer la destruction programmée d'une grande ville, mais c'est peut-être la parole à propos, le témoignage de la position selon Dieu, d'une situation portée à ma connaissance. Faut-il que j'en arrive à toucher le fond pour revenir dans la communion avec Dieu et à mettre ma confiance dans son salut et son secours dans la détresse? J'espère que non. Mais quand les circonstances sont favorables, que tout roule comme sur des roulettes, selon l'expression populaire, alors danger. J'ai vite fait de laisser mon égocentrisme prendre insidieusement le dessus. Restons vigilants et n'attendons pas d'avoir besoin que Dieu nous fasse faire demi-tour et nous fournisse le billet retour comme Jonas dans son poisson. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu, pas même et surtout pas la rébellion et la désobéissance de son serviteur. Son incompréhension de la nature même de Dieu, celui qui fait miséricorde, et même pire, de se réjouir du jugement qui va frapper des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. Alors que je ne sois pas trouvé comme Jonas qui reproche à Dieu de faire grâce suite au repentir sincère, qui se permet de dire en clair « j'aurais dû m'en douter, car tu es compatissant, lent à la colère et miséricordieux et riche en bonté ». Mais théologiquement, le livre de Jonas met en avant le salut par grâce, par pure grâce, qui ne peut se mériter. D'ailleurs, notre Seigneur va interpeller la foule qui l'entourait dans le chapitre dont je vous ai lu, chapitre 11 de l'Évangile de Luc, en qualifiant la génération des... en rappelant le message de Jonas et son résultat sur les Ninivites, puis aussi la condamnation par les habitants de Ninive des contemporains de Jésus, le Messie, le Christ. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentiront à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. N'ai-je pas des Ninivites autour de moi pour lesquels je laisse ma nature penser que seul un juste châtiment peut convenir, qu'ils sont irrécupérables, inaptes au changement? Il faut que j'apprenne toujours plus à ne pas évaluer la situation de mon prochain selon mon standard, mais selon celui du Dieu qui veut sauver. Jonas a bien dû entendre que 120 000 paumés qui n'ont pas de discernement valent bien une mission à Ninive. La fin de cette histoire, comme je vous l'ai dit, reste à écrire. Alors nous ne savons si Jonas a enfin compris ce que Dieu voulait lui faire comprendre, s'il a renoué sa relation confiante avec Dieu, mais elle est pour nous tous ici une interpellation. C'est à nous d'écrire la suite de ce récit pour chacun d'entre nous. Oui, j'ai eu mes fuites à Tarsis, mes colères, mes doutes à juger. Mais je ne suis pas appelé à me substituer à Dieu pour rendre la justice. La mission que Jésus confie à ses disciples lors du sermon sur la montagne va au-delà. Elle nous invite, pour marcher dans les pas de notre Maître, à quelque chose qui dépasse les meilleures aptitudes de notre nature, qui nous fait entrer dans sa nature à lui. Nous le trouvons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5 et au verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Que je sois et que nous soyons tous ici, dans notre bien faible mesure face à un si grand challenge, trouvé cherchant avec le secours de l'Esprit à ressembler à notre Maître, porteur de cet amour inconditionnel, incompréhensible, même de ce monde conduit par Satan à toujours plus de violence et de haine. Merci de votre attention.